À ceux qui sont ici rassemblés, à ceux qui nous voient à distance, soyez tous bénis en ce dimanche matin, que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Il nous montre, merci de ces textes, de ces psaumes, combien notre Dieu, si grand, si puissant, est proche de nous et prend soin de nous. Soyons-en conscients, les temps sont parfois difficiles. David a connu, les psalmistes ont connu des épreuves. La réalité du croyant, ce n'est pas de ne pas connaître l'épreuve. La réalité du croyant, c'est de connaître, d'expérimenter que la confiance que nous mettons en notre Dieu, elle n'est pas vaine. Il est digne de recevoir notre confiance et notre adoration. Ce matin, je vous propose un texte dans 1 Pierre. Au chapitre 3, les versets 8 à 12. 1 Pierre 3, 8 à 12. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors là, il est question de bonheur. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. Lorsque nous regardons autour de nous, nous regardons un petit peu ce que le passé nous a enseigné, ce qui a été écrit, ce que les hommes ont pu écrire. Ce qu'ils ont pu vivre montre que le bonheur est au centre des préoccupations humaines, n'est-ce pas? C'est devenu une quête effrénée de tout ce qui est gratifiant même. Bien-être, réussite sociale, familiale, bonne santé, célébrité, richesse, etc., etc. La notion est variable selon les individus et les milieux sociaux, la culture. Mais l'aspiration profonde au bonheur est bien une réalité intangible de la condition humaine. Alors peut-être que il y a en l'homme quelque chose d'inconscient lié à la création, à ce paradis perdu, à ce jardin d'Éden dont parle la Bible, mais les hommes considèrent que c'est un mythe, mais malgré tout, c'est étonnant que, eh bien, il y ait en nous cette espèce d'aspiration qui se transmet de génération en génération. L'aspiration au bonheur concerne les croyants, donc aussi les non-croyants, bien sûr. Cette quête, on a poussé certains, à force de vouloir brûler la vie par les deux bouts, à s'engager dans un processus d'autodestruction et à aller de désillusion en désillusion. Ernest Hemingway, célèbre romancier américain, a mené une vie de dissolution, une vie dissolue, débridée, tellement sa quête du bonheur l'a amené à se rebeller contre tout ordre moral, contre la Bible et ses enseignements, contre Dieu. Arthur Rimbaud, un Français, célèbre poète, aventurier, explorateur, est mort à 37 ans. Usé par son style de vie, lui aussi débridé. Ces hommes, ce ne sont pas les seuls, ont été confrontés à la triste réalité de plaisir éphémère, bien inférieur aux normes de Dieu, d'une vie authentique, capable de satisfaire pleinement, de connaître la plénitude, de satisfaire pleinement les attentes et les aspirations du cœur humain. En Deutéronome 6, au début de la Bible, les versets 24 et 25, nous lisons de manière très étonnante, enfin pas étonnante, mais conforme à ce que Pierre a écrit. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes les lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions malheureux. Non. Toujours. C'est pas heureux de temps en temps. C'est pas heureux après une expérience positive. Non. Toujours heureux. La nature, notre vie, notre être tout entier, heureux. Et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons une certitude, c'est pas peut-être, nous aurons la justice en partage. Si, les fameux si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. L'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse, s'adresse à son peuple de manière là, collective. C'est le peuple tout entier qui est concerné. Le peuple d'Israël, le peuple saint, mis à part par l'Éternel des armées. Ce texte dans Deutéronome correspond, donc, je vous le disais, à notre texte d'aujourd'hui, un petit peu avec les mêmes termes, heureux, si, etc. Si nous craignons l'Éternel et si nous vivons et mettons en pratique ses préceptes. En particulier dans les versets 10 et 12. Pierre s'adresse aux croyants. Alors, c'est écrit au début, hein, au début de la première épître. Du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. À l'Église de Jésus-Christ dans cette région. Comme Moïse, il s'adresse à nous de manière collective. En tant qu'Église triomphante, heureuse, élue, nous dit le verset, nous dit le verset 2 du chapitre 1er de 1 Pierre, élue selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'elle devienne obéissante et qu'elle participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix lui soient multipliées. Alors j'ai remplacé, j'ai modifié un petit peu, vous l'avez constaté en lisant votre Bible, j'ai remplacé à dessein le pluriel, donc concernant les croyants, de manière dans le texte de Pierre, par le singulier, l'Église. Certes, ces versets nous parlent en tant qu'individus. Ils ont valeur d'exhortation et nous encouragent à l'obéissance et à la fermeté dans notre marche spirituelle. Mais la santé spirituelle d'une Église se mesure collectivement. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était fidèle dans sa globalité où, lorsqu'il y avait des moments d'idolâtrie, il était infidèle dans sa globalité. Bien qu'individuellement, il puisse y avoir, et il y en avait, parmi le peuple, qui restait fidèle. Mais devant Dieu, c'est le peuple tout entier qui faisait fausse route. Et c'est ça qui compte. Et les quelques-uns, les prophètes, qui restaient fidèles, étaient chargés de ramener le peuple dans le droit chemin. Il faut bien que nous comprenions ça. Cet aspect collectif. Et comment Dieu voit la situation d'une église. Je mettrai donc le curseur sur cet aspect ecclésial des choses, la vie d'Église, le modèle de l'Église, et développerai dans un premier temps la condition fixée par Pierre en ce texte pour que l'Église soit heureuse, triomphante. Et dans un deuxième temps, j'analyserai les conséquences dans la vie d'Église, de la mise en œuvre collective de cette condition. Donc, premièrement, une condition pour une Église heureuse, l'unité. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, nous dit le verset 8. C'est clair. Tout est question d'attitude devant Dieu. Celui-ci s'est identifié de manière précise, de manière certaine, la bonne attitude de l'Église locale pour l'honorer, lui plaire, faire ce qui lui est agréable. Pierre souligne ici 5 vertus cinq vertus, cinq valeurs spirituelles propres à mettre en œuvre l'unité collective au sein ou de l'Église locale. Première vertu, animer des mêmes pensées. Humainement, penser tous la même chose, c'est pas possible. Nous sommes tellement divers, nous venons de cultures d'arrière-plan, de vies tellement différentes, que ce n'est pas possible. C'est clair. Il y a là déjà un défi immense. Pierre demande donc à ses lecteurs de poursuivre les mêmes buts. Là. De continuer à vivre en harmonie autour de leur engagement commun. Tu as parlé d'engagement, Élie. De tenir ferme envers la vérité, nous l'avons chanté. Cette harmonie, cette unité de cœur permet de tenir dans les temps difficiles. Et nous en connaissons. À l'époque de Pierre, l'Église primitive connaissait des temps difficiles de persécution, de rejet. Il souffrait injustement à cause de leur croyance, à cause de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus nous a prévenus. Vous souffrirez à cause de moi. Et aujourd'hui encore, l'Église, dans le monde, est persécutée. Notre pays n'est pas touché, mais il y a de plus en plus de velléités. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Mulhouse. Le coronavirus qui donc était dans cette église. Les gens autour, le monde environnant a menacé cette église, les gens, les membres de cette église, de brûler leur maison. Ça ne s'est pas fait, évidemment, c'était des menaces. Mais, voilà. Mais. Donc, soyons vigilants, restons vigilants. Et ne pensons pas que la persécution, ça concerne, comme dans Porte Ouverte, ben les pays les classés dans le top 10 des pays persécuteurs. Les choses changent parfois très très vite. Pierre nous engage à fuir les conflits relationnels au sein de l'Église. Cela correspond à l'enseignement même de notre Seigneur Jésus. Paul exhorte les Philippiens à être un exemple d'unité. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant, d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1, verset 27. Avons-nous aujourd'hui conscience, dans notre contexte d'Église, qui ne connaît pas, je l'ai dit, ouvertement la persécution, que notre témoignage ne sera reçu de nos contemporains qu'à partir du moment où ils nous voient animés des mêmes pensées, où ils nous voient défendre les mêmes buts. tendre vers la même chose, le même but. Être engagé dans la vérité enseignée par notre Dieu. Avoir les mêmes sentiments. Alors, il y a une nuance, hein. Là, par rapport à pensée, sentiment, ça vient du cœur, c'est du domaine de l'émotion aussi. Il s'agit d'être sensible, là, aux besoins des autres. Darby, la Bible Darby, traduit par « sympathisant », c'est-à-dire littéralement « ceux qui sont prêts à souffrir avec ». C'est ce que ça veut dire. Sun, avec, pathos, souffrir, souffrir avec. Leurs frères et leurs sœurs. Bannissons, mes amis, bannissons l'indifférence. Bannissons, eh bien, ce qui, dans nos cœurs, peut aller jusqu'au mépris même. Ne tombons pas dans la moralisation légaliste qui nous éloigne les uns des autres. Ayons un regard sensible à ce qui se passe chez l'autre. Réjouissons-nous avec celui qui est dans la joie. Soyons heureux des progrès spirituels des autres, ne les jalousons pas. Troisième vertu, être plein d'amour fraternel. Il s'agit de traiter les autres comme des frères et des sœurs, tout simplement. Cet attachement doit s'exprimer par un service réciproque, qu'il y ait une réciprocité entre nous et que ce service soit désintéressé. Que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Romains 15, verset 2. Pour que l'autre puisse grandir, pour que je ne sois pas un obstacle à sa croissance spirituelle. L'amour fraternel est un puissant témoignage. C'est à cela que le monde reconnaît que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jean 13, versets 34 à 35. Les églises qui vivent ainsi la fraternité, assurément, il n'y a pas à en douter, ont trouvé leur remède à la discorde et au conflit. Aux chamailleries. Quatrième vertu, être plein de compassion. Alors, ce que je disais pour la traduction Darby, sympathisant, le mot compassion, c'est le mot latin qui veut dire la même chose. Cum, avec, passion, passio, souffrir, avec. Il s'agit là d'être armé, oui, comme une armure, armée de compassion. Ému de compassion. comme Jésus l'a été dans son ministère terrestre. Combien de fois lisons-nous dans les évangiles, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion. Jusqu'aux larmes. C'était pas du sentimentalisme. Ça le prenait aux tripes. Tout son être était engagé dans la compassion. Il était touché aux tripes par la souffrance de son peuple, qui n'était pas conduit comme il se devait, comme Dieu le voulait, dans sa volonté première, par ceux qui en avaient la responsabilité, les religieux, les sacrificateurs, les scribes. Et Jésus était sensible à cette errance-là, et ça le prenait aux tripes. Mais cette vertu nous pousse à aller plus loin. Il ne nous est pas demandé seulement d'être touchés, mais d'agir, d'intervenir, à faire ce qui est en mon pouvoir pour prendre soin de celui qui souffre et qui a besoin d'aide. Tel le bon samaritain, souvenez-vous, un lévite, il l'a vu à demi-mort sur le bas-côté, passe à outre, pharisien passe à outre, etc., etc. Un samaritain méprisé qui n'était même pas juif, il s'est arrêté et il s'est occupé de lui jusqu'au bout. Quelle leçon ! Quelle leçon ! Soyez bon, bon, comme Dieu est bon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Éphésiens 4, verset 39. Être compatissant au sein de l'Église, même si mon prochain qui a besoin d'aide n'a pas toujours été gentil avec moi. Il est gentil avec moi, mais je lui rends la pareille. Lui, il est méchant avec moi. Je l'évite. Non ? Non ? Au sein de l'Église, pour qu'il y ait unité, je dois, le Seigneur me demande d'être compatissant et de pardonner si on m'a fait du mal. Ressentons-nous la douleur, la souffrance de notre prochain au plus profond de nous-mêmes. Dernière vertu, cinquième, et pas la plus facile. Être plein d'humilité. L'humilité permet d'apprécier toute la saveur de la vie d'Église. Et c'est souvent elle qui fait défaut lorsque l'Église ne va pas bien. Cette vertu est essentielle. Et toute notre vie spirituelle et nos relations interpersonnelles doivent en être imprégnées. Elle plaît à Dieu. Elle plaît à Dieu. Il fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, verset 5b. Pierre engage ses lecteurs à revêtir l'humilité dans leur rapport mutuel. 1 Pierre 5, 5. Juste avant la partie résiste aux orgueilleux. Comme une garantie, mes amis, c'est une garantie d'une vie d'église apaisée, triomphante dans les circonstances difficiles. C'est cette humilité qui nous pousse à regarder l'autre, quel qu'il soit, comme étant supérieur à nous-mêmes. Philippiens 2, 3. C'est la nature même de Jésus, sa nature même. Doux nous est-il et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Notre Seigneur est doux et humble de cœur. Laissons-nous, mes amis, je vous en conjure, laissons-nous submerger par la nature de Jésus. Ne faisons pas obstacle à cette douceur si humble. Revêtons la nature même de Christ pour la gloire de son nom et l'épanouissement de son Église. Deuxième partie, une conséquence, je disais. Une condition, deuxièmement, une conséquence. L'Église unie est heureuse. Elle triomphe de l'adversité avec un peuple engagé. C'est beau, mais c'est pas facile. L'unité spirituelle au sein de l'Église produit de bons effets. La bonne attitude a pour fruit de bonnes actions. Éphésiens dit, ces œuvres bonnes préparées d'avance. Bonnes actions et bonnes réactions également. Petit A, l'Église unie bannit la vengeance. Il est dit au verset 9, ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. L'Église primitive était persécutée, vous le savez, et subissait des attaques incessantes, injures, violences. Le monde romain environnant ne pouvait supporter ces chrétiens parce qu'ils vivaient à l'opposé de ce qui était culturellement reconnu comme une manière de vivre à laquelle on ne pouvait déroger. Il n'était pas facile d'endurer ces mauvais traitements. L'enseignement du Christ qui consiste à tordre. Non, je n'arrive pas à me lire. Pardon, excusez-moi. À tendre l'autre joue, si l'on est frappé, et d'aimer ses ennemis doit être pour nous l'ADN. Notre ADN du chrétien authentique. S'ils ont pu triompher de l'adversité, si l'Église a triomphé de toutes ces difficultés, et n'a cessé de croître au fil des siècles, c'est parce que cette dernière est restée unie et fidèle à l'enseignement du Seigneur qui réprouve la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de nous venger. L'Église persécutée, méprisée du monde, ne se venge pas, mais bénit. Ah, mes amis, pouvoir bénir, pouvoir dire à quelqu'un, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus, mais c'est extraordinaire. En avons-nous conscience? Et en le faisant, nous marchons dans les traces de notre Seigneur. On se turlupine, on se... Voilà, le nombril pour savoir quelle est la volonté de Dieu parfois dans certaines situations. Mais c'est si simple de marcher dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Pratiquement, nous sommes en bénédiction pour les autres lorsque nous les aimons de façon inconditionnelle et prions pour leur salut. Une Église exercée à ce genre de pratique triomphe de tout. Oui, l'Église persécutée dans le monde a triomphé de tout parce qu'elle était, elle pratiquait cela. Il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de christianisme. Si ceux qui nous ont précédés au début et qui étaient persécutés n'avaient pas mis en pratique l'enseignement du Seigneur. Dieu bénit une telle Église. Dieu bénit richement et garde son peuple attaché à lui. Petit b, il y a trois conséquences. Une Église unie produit la paix. Ah, c'est beau la paix. On fête toujours sur notre calendrier la paix le 11 novembre 1918, plus de 100 ans après une guerre meurtrière. Nous fêtons la paix le 8 mai en mémoire de ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Ce sont des événements qui sont taillés dans le marbre de notre calendrier parce que une nation qui était en guerre a connu la paix. Une Église unie produit la paix. C'est merveilleux, la paix. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, il y a une condition, oui, qu'il préserve sa langue du mal. Ça s'adresse à des chrétiens, là, et célèbre des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Parce qu'on peut l'avoir prouvé, mais par négligence, retourner dans les errements précédents. Poursuivre, maintenir la paix, c'est ce qui est le plus dur. Alors ces versets 10 et 11 sont des versets, donc une citation du psaume 34, donc par Pierre, les versets 13 à 15. Psaume 34. Pierre affirme ici que les Écritures sont la norme absolue pour connaître le bonheur selon Dieu. D'où le « si » au début de ces versets. Il est péremptoire, il l'affirme et il martèle que le modèle d'une vie heureuse et pleine selon Dieu consiste à s'abstenir de vivre selon les mauvais penchants de notre cœur. L'homme régénéré, mes amis, n'est pas sous l'emprise des mauvaises paroles qui peuvent sortir de sa bouche. Il ne doit pas l'être. Il ne doit pas se laisser dominer. Jacques dit de la langue qu'elle est un feu. Allez dans le Midi, les feux de forêt en Californie, etc. Parlez aux gens là-bas, un feu, ce que ça peut faire. La langue, ce petit, c'est pas un organe petit, c'est un feu, parce qu'il peut exprimer les choses mauvaises qui sont en nous. Elle peut exprimer. C'est le monde de l'iniquité, Jacques 3, verset 6. Prenons garde, mes amis, prenons garde des effets destructeurs des mots, néfastes pour le maintien de la paix. Chaque croyant, membre de son Église, doit y veiller individuellement pour qu'au plan collectif, la paix ne soit pas mise à mal. Toutes les vertus que j'ai citées précédemment sont nécessaires. Inversement, si l'Église est unie, donc au plan collectif, si l'Église est unie autour des cinq vertus développées précédemment, pour mémoire, même pensée, même sentiment, plein d'amour fraternel, plein de compassion et plein d'humilité. C'est un programme. Si c'est le cas, l'Église, si ces cinq vertus sont développées collectivement, l'Église saura triompher de toute velléité de faire obstacle à la paix. Parce que s'il y en a, elles seront montrées du doigt, mais n'oublions pas, n'est-ce pas, la douceur de notre Seigneur Jésus dans l'amour pour que la paix soit maintenue. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Si c'est possible, autant que vous le pouvez, mettez tout en œuvre pour être en paix, vivre en paix avec tout le monde, au-dedans et au-dehors. Parce qu'on ne peut pas prôner la paix ici et sortir et casser la gueule au premier voisin. Excusez-moi, mais... Cela demande d'être... nous demande d'être persévérants dans la mise en œuvre de ce commandement au sein de l'Église et au dehors. Troisième effet, une Église unie produit la justice et la bénédiction. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Le Seigneur nous écoute, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons dans ses traces. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et c'est également une citation du psaume 34, les deux versets suivants, 16-17. Voilà, mes amis, un verset qui doit nous motiver. On peut entendre ça et là. Ouais, je ne sais pas, dans mon travail ou pour moi qui suis retraité, d'être motivé parfois dans certaines choses courantes de la vie. Mais cela, ce verset-là, quelle motivation pour nous, pour vivre une vie d'église qui plaise à Dieu et qui contribue à glorifier son nom. Contribue même, disons-nous parfois dans nos prières, à l'avancement de son règne. Dieu aime son Église. Mes amis, Dieu aime son Église. Il s'est sacrifié pour elle. Le corps de Christ, l'Église est le corps de Christ, et il a promis de garder et de conduire cette Église en lui maintenant sa bénédiction. Sans la bénédiction de Dieu, rien n'est possible. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Lorsque nous ne marchons pas dans la bonne direction. L'Église est déclarée juste en Jésus-Christ. Alors, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nous n'avons rien mérité. Mais nous sommes justifiés. L'Église est justifiée en Jésus-Christ. Et nous sommes sommés, l'Église est sommée de vivre conformément aux préceptes spirituels enseignés par le Christ. Pour avoir, comme cela est écrit dans Deutéronome 6, verset 25, la justice en partage. Vous savez, un patrimoine, par la suite du décès des parents propriétaires de ce patrimoine, le partage de ce patrimoine est fait entre les enfants. Alors il y a des actes notariés, etc., pour partager de manière équitable. Là, mes amis, la justice en partage. Mais que pourrions-nous rêver de mieux? La justice en partage. Une Église unie à la justice en partage. C'est une promesse de notre Dieu. Et lorsque Dieu promet, il les tient. Et c'est vrai. Il tient ses promesses. L'unité de l'Église, mes amis, est un gage, pour vivre selon la justice de Dieu. C'est un gage pour nous, et une garantie, comme une caution. En conclusion, nous avons vu qu'une Église unie triomphe de l'adversité et rend un témoignage véridique dans ce monde. Un témoignage qui, selon la parole, qui délivre les âmes. écrit dans la parole. Dans ce monde qui se perd, un témoignage qui est retenu. Elle marche en rang serré, resserré vers son avenir glorieux. Et ce verset que je vous livre, que nous avons partagé lors de notre réunion de conseil de ce jeudi, et je vous la livre parce que je considère que c'est en rapport avec le message, mais c'est aussi ce qui est important pour nous en tant qu'Église, au point où nous sommes arrivés aujourd'hui, par rapport donc Nation Montreuil. Nous tous, donc Philippiens 3, versets 15 et 16, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen, amen. Marchons d'un même pas. Mes frères et mes sœurs, soyez bénis. Amen.